Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte. Les cantiques sont affichés là et nous suivrons la liturgie et les spontanés qui sont sur les petites feuilles dans vos cantiques. Donc vous pouvez préparer, voilà, c'est sur la tout au début, temps de l'Avent et de Noël. Voilà. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. Oui, le Dieu vivant est présent parmi nous. C'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous rassemble. Alors que le « nous » de nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble. Que le « nous » de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange. Que le « nous » de nos cœurs qui écoutent laisse parler le « je » de notre Dieu. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton esprit vienne conduire et illuminer ce temps de culte. Amen. Nous voici rassemblés. Pouvons rester debout pour louer Dieu et lui dire merci. Pour toutes celles et tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant ton nom et ton amour dans le monde, loué sois-tu. Pour toutes celles et tous ceux qui te donnent des mains, en faisant le bien à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs, loué sois-tu. Pour toutes celles et tous ceux qui te donne une bouche en prenant la défense des faibles, des opprimés. Loué sois-tu. Pour toutes celles, pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur de l'homme. Loué sois-tu. Pour toutes celles, tous ceux qui te donnent un cœur en préférant la pauvreté à la richesse, la faiblesse à la puissance. Loué sois-tu. Pour toutes celles, tous ceux qui donnent à ta pauvreté le visage de l'espérance du royaume, pour toutes celles, tous ceux qui te révèlent simplement à travers ce qu'ils sont, oui Seigneur Jésus, ils reflètent ainsi ta beauté dans leur vie. Oui, pour eux tous, pour elles toutes, loué sois-tu. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant au 41-38, « Louange et gloire à ton nom », 41-38.
Oh.
vous invite à vous asseoir. Assurés de l'amour inconditionnel que Dieu nous offre, nous pouvons à présent le prier pour lui dire la vérité de nos vies. Dieu vivant, devant toi aujourd'hui, je perçois l'écho de ma vie qui ne sonne pas toujours juste. Ma vie, nos vies ne sont parfois que bruit et cacophonie. Chaque moment et chaque pensée jouant une partition isolée. Nous sommes alors tentés de forcer le ton, mais notre jeu en devient plus faux. Nous savons aussi nous réfugier dans le silence, assourdis par les échecs, étouffant la souffrance. Seigneur, Dieu vivant, tu le promets, c'est dans ta grâce que nous pourrons harmoniser nos vies, notre vie, la faire sonner juste, la faire résonner pleinement. Oui, Seigneur, en Jésus le Christ, nous voulons trouver à nouveau ce diapason par lequel tu accordes notre existence à la musique céleste, à ta musique céleste. Amen. Pour celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, pour recevoir une parole qui, au sens propre comme au figuré, nous met debout. Le Seigneur se tient à la porte de ta prière et pour te rejoindre, il frappe. Le Seigneur dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Jésus se tient derrière une porte qu'aucune clé ne fermera. Sa main, attendant ta main, ne la forcera pas. Lui ouvriras-tu la porte de ton cœur afin de goûter le lait et le miel de son pardon? Sa vie t'est offerte. Ouvre-lui, ouvrons-lui et rendons grâce. Amen. Fortifiés par la grâce de Dieu, nous pouvons à présent entendre le chemin qu'il trace pour nous et avec nous. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Thank you. vous invite à vous asseoir. Avant d'entendre les lectures pour ce jour, nous prions. Seigneur Dieu vivant, nous voici rassemblés pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Fais descendre dans nos cœurs ton esprit, afin que cette parole que nous allons entendre devienne une bonne nouvelle pour nous, pour nos vies, et une bonne nouvelle aussi à transmettre de loin en loin, de proche en proche. Amen. Deux lectures. La première dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 3 à 6. Il m'a dit, c'est Dieu qui parle, tu es mon serviteur Israël, par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et la deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé » car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Seigneur, merci pour ta parole. Elle est lumière et vérité dans nos vies. Aujourd'hui, en suivant le calendrier liturgique qui d'ailleurs n'est pas que catholique romain, il est aussi protestant et luthérien notamment. Donc aujourd'hui, en suivant ce calendrier liturgique, nous sommes arrivés au dernier dimanche de ce temps qu'est l'Avent et Noël. C'est le dimanche après l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'était dimanche dernier. Et à partir de dimanche prochain, nous allons entrer dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Et traditionnellement, ce dernier dimanche qui vient clore le temps de Noël est consacré au baptême de Jésus. Et cette année, Nous abordons le baptême de Jésus à travers l'évangile de Jean. Mais, et vous l'avez entendu, une fois qu'on a lu et entendu le texte concerné, le texte qui nous est proposé, il y a un peu de quoi être étonné et peut-être même un peu embêté, en tout cas c'était mon cas en tant que prédicatrice. Embêté parce que finalement ce texte ne raconte absolument pas le baptême de Jésus. Il ne le mentionne même pas. Et d'ailleurs, même l'activité baptismale de Jean, le baptiste, est mentionnée presque en marge de ce texte-là et aussi des versets qui précèdent. En fait, la seule référence qu'on ait au baptême, c'est une référence dont on se dit, elle semble supposer que les personnes qui lisent cet évangile, en fait, connaissent le texte du baptême de Jésus et ça fait écho quand les gens entendent cette histoire de colombe qui descend et qui vient se poser sur Jésus, parce que ça, c'est un élément qu'on retrouve dans les récits du baptême de Jésus. Mais chez Jean, en fait, il n'y a pas de récit du baptême de Jésus. Donc, pour Jean l'évangéliste, le point focal, ce n'est pas le baptême d'eau ou le fait que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste. Ce qui compte pour Jean l'évangéliste, et ce qu'il veut nous transmettre, c'est le rôle que joue Jean-Baptiste, sa fonction. Et sa fonction n'est pas avant tout celle de baptiser les foules, sa fonction dans l'évangile de Jean n'est pas même de baptiser Jésus. Sa fonction dans l'évangile de Jean, la fonction de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, c'est de révéler au monde entier qui est Jésus. Parce qu'on a un peu l'impression, quand on lit cet évangile, en fait, c'est comme si Jean se tenait au bord du récit, Jean l'évangéliste et Jean Baptiste aussi, au bord du récit et qu'il vient témoigner, il vient du fond des siècles nous dire « c'est lui, Jésus, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui, c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est lui, qui existait ou qui était avant et qui vient après, c'est lui le Fils de Dieu. » La fonction de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, c'est de nous transmettre ça aujourd'hui. Et il est important de noter, parce que c'est central, que cette connaissance qu'a Jean-Baptiste de qui est Jésus ne lui vient pas de lui-même. Ce n'est pas une connaissance qu'il aurait acquise. C'est un don, véritablement un don qui lui est fait par Dieu, une grâce, quelque chose qui est donné. Dieu fait don à Jean-Baptiste d'une parole et d'une vision. L'un ne va pas sans l'autre. Quand il y a vision, il faut bien qu'il y ait parole pour expliquer la vision, pour la transmettre. Et le signe qui est donné par Dieu à Jean-Baptiste pour qu'il reconnaisse en Jésus le Fils de Dieu, c'est cette vision de la colombe qui descend sur Jésus et qui, alors, cette traduction-là dit « vient se poser », le terme un peu plus exact serait « vient demeurer », « demeurer sur lui ». Ainsi, dans l'évangile de Jean, Jean le Baptiste nous est plutôt présenté comme un mystique visionnaire, hein, ou comme un contemplatif, plutôt que comme un prophète baptiseur, ce qui est le cas dans les autres évangiles. Et au final, celui dont le texte nous dit qu'il baptise, eh bien c'est Jésus. Enfin, on a bien dit un peu avant que Jean baptisait, mais celui qui dans ce récit la baptise, c'est Jésus, et Jésus lui-même. Jésus baptise, mais lui, il ne baptise pas d'eau, le texte nous dit, c'est dans l'Esprit Saint qu'il va baptiser. Alors, ce que je vous propose pour ce matin, c'est que nous cheminions ensemble à travers ces trois « c'est lui » dont témoigne Jean-Baptiste. Le premier, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces mots nous sont, je pense, un tout petit peu familiers, puisqu'ils sont devenus une formule liturgique qu'on a dans notre cantique « Christ, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » et qu'on chante parfois au moment de la Sainte Cène. Mais que signifient exactement ces mots ? Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, l'agneau, c'est l'animal de la Pâque juive, symbole de la sortie du peuple hébreu d'Égypte, symbole de la libération de l'oppression. L'agneau, le mouton, la brebis, c'est une image qui a de multiples facettes. Donc, comme je l'ai dit, l'agneau de la Pâque, c'est aussi une figure qu'on retrouve chez le prophète Ésaïe lorsqu'il parle du fameux serviteur souffrant que les premiers chrétiens ont identifié à Jésus. Dans Ésaïe 53, par exemple, on peut lire « Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, ou une brebis. Enfin, » ouais. Et donc les premiers chrétiens, dans ces versets, et ceux qui précèdent et ceux qui suivent, ont dit « Mais ça c'est Jésus, ça c'est le Christ, cet agneau, ce mouton qu'on mène à l'abattoir, c'est l'image du Christ crucifié. » Et enfin, l'agneau est aussi un animal que l'on utilise lors des sacrifices au temple de Jérusalem. Un sacrifice qui vient renouer une relation rompue entre le fidèle et entre Dieu. Ainsi, Jésus, dans lequel Dieu s'incarne, est présenté comme un agneau, comme un animal sans défense. Et en même temps, c'est cet agneau de Dieu qui va libérer, soulever la chape de plomb du péché. Alors ce petit mot, les traductions sont différentes, hein, suivant les Bibles que vous avez. Il y a une petite nuance entre porter et soulever, ôter, enlever. Et ça me paraît important de soulever juste la nuance. C'est pas exclusif, mais voilà, dans ce texte-là, je trouve que c'est pertinent de voir cet agneau de Dieu non pas crouler sous le poids du péché de l'humanité. Ça, c'est ailleurs et c'est aussi présent dans l'Évangile, mais après. Mais là, plutôt de se dire, c'est un agneau et c'est le Christ, la fonction du Christ, c'est celle de venir soulever, enlever la chape de plomb du péché. Avec cet agneau de Dieu, le péché ne disparaît pas, bien évidemment, c'est notre réalité, mais son poids est enlevé de nos épaules. Non pas que le péché ne compte pas ou plus, ou qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus, mais nous ne sommes pas enfermés dans ce péché comme dans une voie sans issue, comme dans une impasse. Cet agneau de Dieu est cet agneau qui vient ouvrir une autre voie. L'agneau de Dieu, Jésus, vient dans le monde pour soulever le péché et nous permettre de nous remettre debout. Et il nous ouvre ainsi l'horizon de la grâce. Ça, c'était pour le premier, c'est lui. Le deuxième, c'est lui qui existait avant moi, était avant moi, il était, il existait. Alors là aussi, vous avez de multiples traductions. Cette affirmation fait écho et résonne, en tout cas c'est ce qui m'a semblé aussi, dans d'autres endroits à travers les Écritures. Cette notion du temps, de cet avant et de cet après, et d'un Jésus et d'un Christ qui dépasse le temps. Une affirmation qui nous ramène au premier verset de l'Évangile de Jean. « Au commencement était la parole, le Verbe, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis, cette affirmation nous emmène tout à l'autre bout du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, quand Dieu dit « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Et puis, elle nous entraîne au buisson ardent. On fait un saut en arrière avec Moïse. Moïse qui entend cette parole qui est intraduisible. Parce que Moïse dit à Dieu, qui se révèle à lui, qui lui donne la mission d'aller libérer le peuple. Et puis Moïse dit, mais premièrement, qui je suis? Et puis deuxièmement, à qui dois-je annoncer? Je parle au nom de qui? Qui es-tu? Et Dieu dit, et Moïse entend cette parole intraduisible, « Je suis celui qui est, qui était, je suis, point, c'est la définition. » Et cette notion du temps de ce Jésus qui dépasse nos temps physiques vient nous ramener aussi à nos vies à nous, il me semble. Nos vies, bien sûr, nos vies à nous sont contenues entre notre naissance et notre mort. Il y a un avant où nous n'existions pas et un après où nous ne serons plus. Dramatique d'ailleurs à concevoir, enfin dramatique, oui si, ça fait partie de notre, du choc de la vie, de se dire un jour on n'a pas existé et puis un jour on n'existera plus. Et Jésus, lui, vient ouvrir l'espace de nos temps, de notre temps. Jésus, c'est celui qui était avant et qui sera après. Alors bien sûr, par là, nous ne sommes pas invités à rêver que notre finitude n'existerait pas. Mais cela vient nous dire que cet espace de temps entre notre naissance et notre mort est comme fécondé d'éternité, pour reprendre l'expression de Marion Muller-Collard. Notre vie est traversée par le Christ qui lui n'est pas contenu dans le temps. Et lorsque nous accueillons le Christ dans notre vie, c'est comme une poussière d'éternité qui vient se poser dans nos vies. Marion Muller-Collard dit « L'évangile ne se date ni ne se gâte. Et lorsqu'il éclaire ma vie, il y met en lumière quelques trésors que ni les vers ni la rouille ne sauraient menacer. » C'est peut-être ça, notre part d'éternité. Et puis notre autre part d'éternité, c'est que nous sommes, notre nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. Et que de là, ce nom-là ne disparaît pas. Impossible. Et puis nous en arrivons à la troisième affirmation. C'est lui, le Fils de Dieu. Cette affirmation vient clore notre texte d'aujourd'hui. Comme une ultime affirmation ou comme une première confession de foi, celle d'une filiation, c'est-à-dire d'une proximité. Cet homme, ce Jésus-là, ce Jésus est le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas là de génétique, mais de proximité. Jésus et Dieu, ces deux-là sont de même essence. Le signe de cette proximité se dit à travers la vision de Jean-Baptiste, cette vision dont Dieu lui-même lui dit qu'elle est signe. Jean-Baptiste a vu l'Esprit sous la forme d'une colombe descendre du ciel et demeurer, se poser sur Jésus. L'Esprit ne se contente pas de passer en Jésus comme le ferait un courant d'air. L'Esprit vient se poser. Il vient demeurer en Jésus. Et ce verbe demeurer est important dans l'évangile de Jean. Il est déjà présent dans le prologue, c'est-à-dire dans les versets qui précèdent, lorsqu'il est dit que la lumière, que Dieu, la parole, demeure parmi les siens. Jésus est celui en qui l'Esprit Saint demeure. Et c'est là que le baptême revient sur le devant de la scène. Jésus, en et sur qui l'Esprit Saint demeure, n'a pas pour vocation de garder cet Esprit pour lui tout seul. L'Esprit Saint va être répandu, et c'est Jésus lui-même qui le répand en baptisant dans l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit Saint. Peut-être pas très très réformé, mais quand même, extrêmement important et vital, parce que ce baptême de l'Esprit Saint est pour nous. Non, je ne dirais pas plus que le baptême d'eau, mais le baptême d'eau n'est pas grand-chose sans le baptême de l'Esprit-Saint. Ce baptême d'eau que nous pratiquons n'est que le signe visible d'un baptême invisible, celui du Saint-Esprit. Bien sûr, il me manque une feuille. Ah non, elle est là. Donc, bien sûr que le Saint-Esprit... non, c'est pas ça. Bien sûr que l'eau ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. L'eau est un signe. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême à vivre, un baptême à expérimenter, comme une expérience spirituelle. Un peu comme ce qui est arrivé à Jean, qui a vécu une expérience en voyant cette colombe se poser sur Jésus. Le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans une dynamique de grâce, une dynamique de vie et une dynamique de témoignage. Car à notre tour, nous sommes appelés et invités à nous laisser habiter par le Saint-Esprit. Cet Esprit qui nous permet de connaître, reconnaître et désigner le Christ, agneau de Dieu et Fils de Dieu, qui inlassablement et hors des limites du temps et de l'espace, passe et repasse dans nos vies et dans le monde pour les féconder d'éternité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 3108. Non, 09, voilà. Heureusement que vous êtes là. Les strophes 1, 2, 3. Je vous invite à vous asseoir. C'est à présent le moment de l'offrande où nous pouvons donner selon ce que nous avons décidé dans notre cœur, comme un geste d'offrande, un geste de joie. Mais Seigneur Dieu vivant, voici notre offrande. Merci pour tous ces gestes du don que tu génères en nous à travers ton esprit. Amen. Et à présent, c'est le temps des annonces. Je te laisse commencer, Pierre, et je termine.
Bonjour à chacun. Donc, merci à Sophie, Laurette et Pierrick qui ont préparé la scène et qui vous ont accueilli. Merci à Nadine d'être avec nous aujourd'hui. Cette semaine, mardi à 15h au temple, le Sera se retrouve pour le tirer des rois.
C'est plutôt 14h30.
Ah, 14h30. Il y en a qui ont envie de papoter plus longtemps. Ce même jour, à 19h15, la chorale, alors juste pour vous signaler pour la chorale, on a commencé un nouveau cycle et c'est sur le thème de la joie. Donc si vous voulez vous réjouir avec nous, venez chanter avec nous. Voilà, mercredi, parole et prière, donc nous prions à 18h. Vendredi, à midi, il y a toujours le repas partage dans les locaux du Secours catholique. Et le soir, il y a une Bible en partage, c'est 18h30. Hein. Voilà. Donc c'est le... C'est un peu le mois d'unité, le mois de janvier, donc n'hésitez pas à venir rejoindre ce groupe pour partager sur les textes du dimanche d'après. Voilà, donc c'est un groupe œcuménique, donc nous nous retrouvons ici, c'est un groupe peu nombreux, mais n'hésitez pas à essayer. Voilà, c'est à partir de la Lectio Divina. Qu'est-ce que j'oublie ? Samedi, il y a la formation des prédicateurs. Donc cette fois, ce sera en visio, en distanciel, quoi, de 9h30 à midi. Et le thème, c'est Bible et écologie avec le pasteur Régis Joly. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette formation, peut-être se rapprocher de Marie-Vonne. Voilà, et il reste toujours dans le temps œcuménique, un rendez-vous un peu plus lointain, le 1er février à Sainte Bernadette. L'heure, c'est 20h30. Voilà, donc 20h30 à Sainte Bernadette, animé avec les musiciens du groupe Trinité, le groupe de jeunes, l'appel de Savoie et les autres groupes de jeunes. Voilà, donc c'est un temps de louange qui a été plus ciblé vers la jeunesse, mais bien évidemment, tout le monde est invité. Voilà, est-ce que Norbert, peut-être?
Alors, le décès de Gradiena Oberkampf.
J'allais le dire au micro.
Ah,
mais c'est mieux de dire au micro, en fait, parce que comme ça, tout le monde entend.
Donc, Jean-Marc Comventre m'a téléphoné ce matin parce que il a été prévenu que Gradiela Oberkampf est décédée et il souhaitait que je contacte Louis Mondalaz pour le chauffage. Bon, Louis n'est pas là ce matin, mais je le... Ah, bon, donc tu t'en occupes? Ok. Alors, c'est mardi à 14h et c'est donc Jean-Marc Ventre qui présidera la cérémonie. Et on peut avoir une pensée, on pourrait avoir en fait une pensée tous les dimanches pour la famille Oberkampf, parce que Jean-Marc me disait, je ne savais pas du tout ça, que c'était la famille de Gradiela qui avait offert l'orgue. Voilà.
Et dans les décès, également signalés les obsèques de Monsieur Péder, demain, au crématoire. Ah, c'est mercredi. Pourquoi je dis demain? Pardon, mercredi. Et donc, merci à Danielle, parce que c'est elle qui accompagne la famille et qui célébrera ses obsèques mercredi au crématorium de Lille, Monsieur Péder. Voilà, et partagez avec vous. Je sais que ça a déjà été évoqué dimanche dernier, mais aujourd'hui, la famille Sémi, qui habite, qui est logée ici au temple, est en route pour Paris et pour l'audience demain au la CNDA. C'est quoi? C'est Commission nationale de demande d'asile. Voilà, c'est ça. De droit d'asile. Merci. Voilà, en tout cas, c'est crucial parce que c'est le recours. Donc, on peut les porter dans nos prières, hein, pour que ça marche. Voilà. Juste partager avec vous la lettre, le mail que Yvon Serge a envoyé au sujet de ça. Je vous informe que nous avons reçu la lettre de la CNDA relative à l'avis d'audience concernant notre dossier de recours. Donc l'audience est fixée au lundi 16 janvier 2023. Je partirai donc avec mon épouse pour Paris le dimanche 15 janvier. Merci pour vos prières, pour tout l'amour et l'assistance que vous ne cessez de nous apporter. Bien fraternellement, Yvon Serge. Voilà. Nous avons partagé le pain de nos prières, le pain de la parole. À présent, nous allons partager le pain et la coupe du repas du Seigneur. Je vous invite à la prière. Oui, c'est notre joie de te célébrer, ô Dieu vivant, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. Oui, c'est notre joie aussi de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et qui illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons. Je vous invite à vous lever. Ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et cette coupe soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Oui, nous intercédons. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de la faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les personnes qui sont immigrées, pour les personnes forcées à marcher sur les routes de l'exil. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Et aujourd'hui en particulier, nous te prions pour Yvon Serge Poursette. Permets que leur demande d'asile soit acceptée et qu'ils puissent trouver un équilibre de vie. Nous voulons te prier pour les personnes qui se sentent seules, qui sont seules. Conduis-nous sur le chemin de cette solitude et de leur souffrance. Nous voulons te prier pour les personnes qui sont méprisées, laissées pour compte. Rappelle-nous que chacun, chacune a droit au respect. Nous te prions pour les personnes qui sont malades, qui sont en souffrance, pour les personnes qui traversent le deuil, en particulier les deux familles dont nous venons de parler. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Et nous voulons juste prendre quelques moments de silence pour te nommer dans le secret de notre cœur toutes les personnes que nous voulons, pour lesquelles nous voulons te prier. Et toutes nos prières, nous voulons les rassembler dans cette prière que Jésus nous a enseignée en te disant ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Oui, nous sommes toutes et tous invités à prendre part au repas du Seigneur. Vous êtes toutes et tous invités à venir faire un cercle autour de la table du temple. Même si vous ne souhaitez pas communier, vous pouvez vous joindre au cercle, vous ferez juste un signe pour que les espèces se passent. Voilà, venez, car tout est prêt. Pardon, je vous embête, mais ce serait bien de faire un vrai cercle. Donc, soit on passe entre les bancs, soit on se... Quelque chose qui se rejoigne. Ah, je sais bien que c'est super important de garder une ouverture vers l'extérieur, tout ça. On peut peut-être se mettre devant, là, non? En se serrant, du coup, il y a de la place. Alors, les personnes qui sont... Voilà, super. Et pareil de ce côté. Voilà. Rapprochez-vous de la croix et préparez. Voilà, et puis on peut aller dans l'allée si jamais. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus le Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang, c'est-à-dire à la vie du Seigneur Jésus le Christ. Dieu vivant, merci pour ce repas. Ce repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus le Christ. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage. Que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Allez toutes et tous dans la paix du Christ. Amen. Alors je vous invite à regagner vos places, juste pour chanter le dernier cantique, puisque la bénédiction, on vient de la partager.
Chacune et belle semaine. Merci.